RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Vu sur le continent, c'est un pays modèle. Un modèle de diversité, de stabilité et de démocratie. Je veux parler de l'île Maurice, pays d'immigrés venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe, qui a mis en place un système de représentativité ethnique. À l'Assemblée nationale d'abord, puis à tous les niveaux de la société. Bien que la constitution de Maurice ne reconnaisse que 4 communautés, eh bien les minorités, voire les castes, sont toutes représentées. L'équilibre ethnique est une obsession dans l'île plurielle, mais certaines voix dénoncent un compartimentage de la population. D'autres n'arrêtent pas de dire que le tissu social est fragile. Les émeutes de 1999 avaient basculé en effet dans la sphère ethnique. Maurice, comment le pouvoir est partagé entre les communautés? Voici le grand reportage d'Abdoulah Erali, Abdoulah que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
Total guet résultat élection. Toutes les composantes de la nation mauricienne finent élites dans mon mandat, dans cette fois-ci, dans l'élection.
Et nous fiers qu'il y ait un député qui n'est nu venant de toutes les communautés.
S'il est un dossier sur lequel il existe une union sacrée à Maurice, c'est bien celui de l'unité nationale. Ces discours tenus après la proclamation des résultats des dernières élections générales, en 2010, sont ceux de deux plus grandes figures politiques du moment, Navin Ramgoolam, Premier ministre, et Paul Béranger, leader de l'opposition. Ennemis jurés pendant la campagne électorale, le vainqueur et le vaincu ont lancé à leurs partisans le même message rassembleur, comme si la cohésion sociale n'est jamais un acquis, comme s'il faut aussi se donner bonne conscience après des discours moins rassembleurs en privé. Ananda Devi, la doyenne des écrivaines mauriciennes, est méfiante du discours des politiciens en la matière.
Les Mauriciens sont passionnés de politique, mais la politique, c'est un peu comme un piranha qui dévore tout. On n'apprend pas aux gens à penser pour eux, on leur dit voilà, c'est comme ça.
Les Mauriciens ne sont pas dupes. Ils savent que certains hommes politiques ont un double langage, qu'ils prêchent pour leur paroisse avant tout. Ils sont après tout à l'image d'une société contradictoire, ce qui donne le sentiment à Ananda Devi que le risque de dérapage à Maurice est latent.
Les mentalités restent quand même très ancrées dans les préjugés, la différence, dans la conviction qu'on n'est pas tout à fait pareil à l'autre. Et lorsque la politique va venir exacerber tout cela, lorsque les problèmes économiques viennent aussi creuser les failles, tout ça va finir à un moment donné par rentrer dans la faille identitaire.
Quand les Britanniques prenaient leur distance de Maurice au moment de la décolonisation, ils étaient conscients des risques que courait cette concentration d'immigrés de différents horizons. Ils ont été clairvoyants depuis le début, dès le moment de leur entrée en scène à Maurice en 1810, quand l'île de France basculait dans le camp britannique. C'est la thèse de l'historien Jocelyn Chanlao.
Le traité de capitulation dit quoi? Ils vont respecter la culture, les coutumes, les religions, les lois françaises. Donc, il y a au début la tolérance culturelle dans une certaine mesure. Elle est là dès le début de la colonisation britannique. Quand les autres groupes se sont créés en ethnie pour plusieurs raisons politiques, etc., cette tolérance s'est élargie. Mmh. Et ensuite, les Britanniques, vous savez, surtout en tête, l'Inde, Chypre, où les affrontements interethniques avaient créé d'énormes difficultés pour les Britanniques. Donc, ils ont voulu à Maurice un système de démocratie consensuelle.
Depuis, selon l'historien, les Britanniques ont mené des expérimentations avant de léguer à Maurice un modèle de représentativité ethnique appelé le « best-loser system », littéralement le système des meilleurs perdants. Il s'agit en fait d'un mécanisme qui entre en jeu après un scrutin national. Son rôle, repêcher des candidats battus selon leur profil ethnique et garantir la présence des minorités au Parlement. Un modèle de siège correctif qui avait tout son sens à l'époque, rappelle Shafiq Osman, politologue.
Il fallait rassurer les minorités pour que les hindous, qu'on disait allaient être majoritaires et allaient tout gouverner, n'allaient pas tout prendre, entre guillemets. C'est pour cela qu'il fallait rassurer ces minorités, il fallait leur donner une représentation, entre guillemets, adéquate à l'Assemblée nationale. Quand cela a été mis en application, bien évidemment, c'était pertinent.
Pour parvenir à ce modèle de répartition de pouvoir, il fallait définir quelles sont les communautés mauriciennes. Les Britanniques ont inscrit dans la constitution de Maurice 4 groupes, les hindous, les musulmans, les sino-mauriciens et la population générale. Les hindous constituaient, d'après le recensement de 1972, 52% de la population. Shafiq Osman.
Mais il est évident que ces communautés qu'on a inscrites dans la constitution de Maurice sont très questionnables, parce que les hindous, c'est une religion, les sino-mauriciens, une communauté, les musulmans, c'est une religion, et la population générale qui ne dit absolument rien, c'est-à-dire c'est une sorte de catégorie fourre-tout, où si on n'est pas hindou, si on n'est pas sino-mauricien, si on n'est pas musulman, on est de surcroît population générale.
Ce modèle n'a pas cessé de faire débat dans la société mauricienne. Aucun gouvernement n'a osé y toucher, de peur de provoquer un déséquilibre. Mieux, les gouvernements successifs ont ajouté à cette représentativité institutionnelle un modèle informel qui consiste à rassurer d'autres minorités ethniques, voire des castes. Aujourd'hui, toutes les communautés et les différentes castes ont un représentant, soit élu à l'Assemblée nationale, soit nommé dans un poste de responsabilité publique ou semi-public. Maurice a établi dans tous les champs, symboliquement le plus souvent, le mode de représentativité pensé par les Britanniques. Jocelyn Chanlao, historien.
C'est une démocratie qui marche par représentation symbolique. Par exemple, au niveau du conseil des ministres, du cabinet, Maurice n'aurait pu avoir que 10 ministres. Petit pays, pas aussi complexe que ça. Mais il y a 25. Pourquoi ? Pour pouvoir représenter tout le monde on board.
Tout le monde à bord dans une petite société d'1,3 million habitants, et cela doit se refléter au sommet comme au bas de la pyramide.
C'est fou ça. Vous avez un premier ministre, et puis un député premier ministre, et puis des vice-premiers ministres. Tout ça pour rassurer toutes les communautés. Donc c'est une particularité de l'État mauricien.
Certains ont qualifié ce modèle de communautarisme scientifique, terme que récusent tous les partis politiques nationaux, même si tous appliquent cette méthode à la lettre. Ainsi, quand les grands partis politiques alignent 60 candidats au scrutin national, ils font tous le même dosage ethnique et castéiste. Cette obsession d'équilibre et de représentativité à tous les étages semble équitable à première vue. Le journaliste français Edwy Plenel, de passage dans l'île, est séduit par cette pluralité assumée.
L'idéal du divers, l'idéal de cette pluralité que vit une démocratie avec ses difficultés, aucune démocratie n'est parfaite, comme Maurice, est pour moi l'idéal politique de l'avenir. Et le jour où la France se portera mieux, c'est le jour où elle l'assumera, elle aussi.
Si cet ensemble communautaire a l'air stable, il a aussi de nombreux pourfendeurs qui lui trouvent deux travers principalement. D'abord, il catégorise les Mauriciens par leur origine et ne valorise pas le mauricianisme. Ensuite, il induit une fragmentation de la société qui sert la stratégie politique la plus ancienne, diviser pour mieux régner. Maurice a traversé deux épisodes douloureux, les bagarres dites raciales de 1968 et plus récemment, le soulèvement de février 1999, dit « émeute de Kaya ». Des émeutes déclenchées par la mort d'un chanteur de Ségué, des émeutes qui vont faire basculer le modèle de diversité. Appelé Kaya, le chanteur avait été arrêté pour avoir fumé du hash. Il n'était pas si populaire, mais sa mort, alors qu'il était en garde à vue, engendra une telle colère que des scènes de violence sans précédent allaient prendre à la gorge le pays. La révolte contre les forces de l'ordre basculait graduellement dans le champ ethnique, sujet tabou, sujet embarrassant. Issa Asghar Ali, cofondateur avec Jean-Marie Le Clézio de la Fondation pour l'Interculturel et la Paix, a vu en février 1999 comment l'arc-en-ciel mauricien se lézardait.
S'il n'y a pas de volonté d'affrontement interethnique, il y a l'engrenage. Voilà, vous êtes pris dedans. C'est-à-dire qu'on vient vous dire que vos nièces, vos neveux, etc., tout ça, et vous basculez. Et c'est ce que Ali Malouf dit dans l'identité meurtrière, que s'il avait passé pas une nuit mais plusieurs, il aurait peut-être pris...
Dans un abri, ouais.
Exactement, dans un abri, pris les armes qu'on lui aurait. Donc, évidemment, parce qu'on succombe, intellectuel ou pas. Et voilà, donc s'il n'y avait pas de volonté, il y a de l'engrenage. Donc, il y a les fausses rumeurs aussi, hein, on l'annonce... comme en 68, que tel prêtre a été tué, tel imam, et puis ça met le feu aux poudres.
Alors que le gouvernement et les forces de l'ordre étaient désemparés, deux figures morales vont jouer un rôle clé dans l'arrêt de ces violences. le regretté cardinal Jean Margeo et Kassamutim, président de la République, sans pouvoir exécutif. Kassamutim s'était rendu dans les foyers de tension contre l'avis de son service de sécurité.
Je me disais que si un président de la République ne peut pas descendre dans une région de son propre pays, ça ne vaut pas la peine pour lui de continuer à être le président de ce pays. C'est pourquoi, voyant se profiler à l'horizon un autre 1968, je m'étais dit que si je ne descendais pas, ce serait aller à l'encontre de ma conscience et il se pourrait que la situation se dégénère à tel point qu'il y ait beaucoup, beaucoup de morts dans la société.
Ce n'était pas la première fois que Kassamutim découvrait les failles du modèle mauricien.
J'étais au cœur des bagarres communales de 1968 en tant qu'observateur, car j'habitais alors une des régions les plus affectées, la Plaine Verte, et j'ai vu comment les gens dits normaux pouvaient devenir irrationnels du jour au lendemain, tuant des voisins uniquement sur la base de leur ethnie ou de leur religion et incendiant des maisons comme pris de folie meurtrière. Les amis d'enfance se comportaient comme des ennemis.
Jean-Luc Moutoussamy était le correspondant de RFO Réunion à Port-Louis au moment des émeutes de 1999. Le journaliste mauricien est aujourd'hui responsable de Radio Ndekeluka à Bangui quand il a vu le basculement en Centrafrique. Les souvenirs de son pays refaisaient surface.
Sans faire de comparaison hâtive et en toute proportion gardée, lorsque j'ai vécu à Bangui pendant quelques semaines et lorsque j'ai vu à quel point des communautés religieuses, la religion pouvait être utilisée comme un prétexte pour tuer le voisin, pour tuer le prochain, alors que le problème est un problème politique et non un problème religieux, ça m'a fait penser à février 99.
Février 99 hante encore les esprits. Oui, cette date mettait en exergue ce que beaucoup redoutaient, la fragilité du tissu social mauricien. Cependant, pour le sociologue Ibrahim Koudorot, cette date a aussi permis de tester la force de réaction de cette même société.
Il y a des soupapes de sécurité qui se retrouvent dans la société civile pour promouvoir l'unité nationale. Et le test case Kaya démontre en fait qu'il y a une certaine maturité dans cette population pour qu'il n'y ait pas de dérapage qui mène vers des émeutes à une grande échelle.
Les autorités ont tiré les leçons de cet épisode. La police mauricienne intervient désormais avec beaucoup de circonspection à chaque fois qu'une petite éruption menace cet équilibre. De même, tous les acteurs de la société mauricienne font très attention à ce qu'ils disent en public. Les principaux journaux et les radios du pays veillent aussi à ne pas exacerber les mauvais sentiments. Christina Chanmitou, professeure en journalisme et communication à l'Université de Maurice.
Le souci à Maurice, c'est qu'on sépare difficilement l'interethnique du politique. Mais globalement, c'est vrai que les médias vont faire attention, tout de même, malgré le fait qu'ils aient probablement une dominante, qu'ils soient associés ou étiquetés en tout cas par rapport à une communauté ethnique. Malgré cela, tous les médias, je pense qu'ils font tout de même attention. Il y a certaines têtes brûlées de temps en temps, il y a eu des scandales, qui utilisent leurs plumes pour un peu jeter l'opprobre sur une communauté en particulier. Quelque part, ça reflète un peu aussi des courants de pensée qui sont là et qui ne s'expriment pas nécessairement au grand jour et qui sont un peu underground, mais qui sont très répandus tout de même.
Est-ce que le tissu social mauricien est fragile pour autant? Question à une historienne de la nouvelle génération, Manorama Haken.
Non, elle ne l'est pas. Et c'est en fait une invention de ceux qui refusent de voir à quel point la société mauricienne est une société intégrée, métissée, si ce n'est biologiquement, mais tout au moins culturellement.
Et c'est visible dans les écoles surtout. Le collège Rabindranath Tagore, situé dans un petit village du nord, appelé Ilot, est un exemple parmi d'autres de l'existence de ces passerelles intercommunautaires. Mahen Ganga Parsad est le recteur du collège.
Vous imaginez qu'une fille musulmane a été classée première à l'île Maurice en hindi, que nous avons un garçon catholique qui a bien fait en hindouisme, que vous avez des enfants hindous et musulmans qui sont en train de faire le mandarin. Il y a une plus que tolérance, je vous dirais. L'interculturalité, ce understanding, c'est vraiment solide et c'est pour la vie.
Pendant que l'école mauricienne valorise l'interculturel, les gouvernements successifs appliquent religieusement un système de quotas, une discrimination positive qui ne dit pas son nom, pour que l'État soit au moins la vitrine de la pluralité. Le pays n'a pas trouvé meilleure approche, plaide Kader Sayed Hossein, ancien haut cadre du privé et ministre du gouvernement travailliste depuis 4 ans.
Il vaut mieux avoir une société moins riche et plus stable, moins riche et plus participative, moins riche et plus inclusive, plutôt que d'avoir une société qui fonctionne très bien de manière mécanique, mais qui oublie en cours de route certaines composantes de cette société.
Une société où certains postes clés sont réservés à une caste, une société où les religions sont instrumentalisées par le pouvoir dans un État qui se dit laïque, mais ça, c'est une autre histoire. Maurice, comment le pouvoir est partagé entre les communautés ? Un reportage d'Abdullah Erali, réalisation Marc Minatel.
Abdullah Erali, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors vous nous proposez un coup de projecteur sur la diversité pleinement assumée à l'île Maurice. Le pays fait très attention à ce que toutes les communautés soient, comme vous le dites, chez vous, on board. Tout le monde à bord, en français dans le texte.
On board, en effet, d'ailleurs c'est l'expression qui est utilisée par un historien dans ce reportage. En d'autres mots, il faut que tout le monde soit représenté. Tout le monde, cela veut dire non seulement les communautés que reconnaît la Constitution de Maurice, mais aussi d'autres minorités oubliées au moment de l'accession de l'indépendance de l'île en 1968, mais aussi des castes hindoues autant que possible. Du coup, pour une petite population de 1 300 000 habitants, il faut 70 parlementaires, 25 ministres, plus des représentants dans les agences de l'État. En gros, c'est une bonne vingtaine de postes qu'il faut attribuer selon le quota ethnique. C'est beaucoup pour une petite population. Et ce système commence au sommet de l'État avec le poste de Premier ministre.
Alors, un Premier ministre qui est hindou depuis presque toujours, de 2002 à 2005, mais les autres postes sont bien répartis entre les communautés.
Premier ministre hindou, oui, car c'est la communauté majoritaire. 4 communautés sont inscrites dans la Constitution de Maurice. Les hindous, majoritaires, je le disais, et les minorités, appelées sino-mauriciennes, donc les chinois, les mauriciens d'origine chinoise, les musulmans et la population générale. Population générale qui veut dire, entre autres, les descendants africains. Alors, les Britanniques ont pensé en modèle de représentativité pour que les minorités et des représentants à l'Assemblée nationale. C'est le best loser system que j'explique dans le reportage. Mais les différents gouvernements post-indépendance ont élargi ce modèle pour effectivement rassurer les autres communautés qui ne sont pas mentionnées dans la Constitution. Par exemple, les Tamouls, par exemple, les Télégous.
Alors Abdullah, en dépit de tout, l'île Maurice est à deux doigts d'un affrontement interethnique.
C'est un tabou dans l'île de parler d'affrontement interethnique. En février 1999, en effet, ça a failli glisser et de manière très grave. C'était des émeutes déclenchées après la mort d'un chanteur dans une cellule de prison. La révolte contre la police était devenue une révolte contre le pouvoir, puis contre d'autres symboles à caractère ethnique cette fois. Alors il y a deux positions dans l'île sur cet épisode. Certains affirment que c'était un soulèvement localisé dans certains endroits et limité contre les forces de l'ordre et les symboles du pouvoir, mais d'autres disent que ces émeutes avaient gagné la sphère ethnique, Laurent.
Ce sera le mot de la fin. Abdullah Erali, merci beaucoup. Reportage à réécouter sur RFI.fr. Bonne journée.